L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc. D'autant que nous resterons là jusqu'à ce que nous puissions mettre mon projet à exécution. Et sois tranquille, maman, l'idée est bonne et nous ne sommes pas loin du but. D'ailleurs, avant tout, ils reconnurent que le repos était nécessaire. L'un et l'autre, ils étaient épuisés. Étends-toi, maman. Tiens, ici. Il y a un tapis de mousse sous ce rocher qui surplombe et qui forme une vraie niche. Tu y seras comme une reine, à l'abri de la fraîcheur. Ah, mon chéri, murmura Véronique, toute heureuse. L'heure était venue pour eux de s'expliquer, et Véronique n'hésita pas à le faire. Le chagrin de l'enfant, en apprenant la mort de tous ceux qu'il aimait et de tous ceux qu'il avait connus, s'atténuerait de toute la joie qu'il éprouvait à retrouver sa mère. Elle parla donc sans réticence, le berçant contre elle, essuyant ses larmes, sentant bien qu'elles suffisaient à remplacer toutes les affections et toutes les amitiés perdues. La mort surtout de Stéphane la frappa. « Mais est-ce bien sûr ? Car enfin, rien ne nous prouve qu'il se soit noyé. Stéphane nage parfaitement. Et alors, mais oui, maman, il ne faut pas désespérer. Au contraire. Tiens, voici un ami qui vient toujours aux heures sombres pour affirmer que tout n'est pas perdu. Tout va bien, en effet, arrivait en trottinant. La vue de son maître n'eut pas l'air de le surprendre. Rien ne surprenait, tout va bien, outre mesure. Les événements se succédaient toujours pour lui, suivant un ordre naturel qui ne le dérangeait ni dans ses habitudes, ni dans ses occupations. Les larmes seules lui semblaient dignes d'une attention particulière. Or, Véronique et François ne pleuraient pas. « Tu vois, maman, tout va bien et de mon avis, rien n'est perdu. Mais en vérité, mon vieux, tout va bien. Tu as du flair. Hein? Qu'aurais-tu dit si nous avions quitté l'île sans toi ?» Véronique regarda son fils. Quitter l'île ? Certes, et le plus tôt possible. C'est là mon projet, qu'en dis-tu ? Mais comment s'en aller ? En barque. Et il y en a une par ici. La mienne ? Où ? Tout près d'ici, à la pointe même de Sarek. On peut donc descendre ? La falaise est à pic, cependant. C'est à l'endroit même où elle est le plus abrupte. Un endroit qu'on appelle la poterne. C'est ce nom qui nous a intrigués, Stéphane et moi. Une poterne, cela indique une entrée, une sortie. Or, nous avons fini par apprendre qu'au Moyen-Âge, du temps même des moines, l'îlot du prieuré était entouré de remparts. Il était donc à supposer qu'il y avait eu là une poterne qui commandait une issue vers la mer. Et de fait, après quelques recherches effectuées avec Magnoc, nous avons découvert, dans le plateau de la falaise, comme une faille, une dépression remplie de sable et maintenue de place en place par de véritables murs en gros moellons. Un sentier tourne au milieu avec des marches et des fenêtres du côté de la mer et conduit jusqu'à une petite baie. C'est l'issue de la poterne. Nous l'avons remise en état et ma barque est suspendue au pied de la falaise.
Le visage de Véronique se transformait.
Mais alors ? Nous sommes sauvés cette fois, sans le moindre doute. Et l'ennemi ne peut pas venir par là.
Comment ?
Il dispose du canot automobile.
S'il n'est pas venu, c'est qu'il ne connaît ni cette baie ni cette descente, lesquelles sont invisibles au large et défendues d'ailleurs par 1000 pointes de récif.
Et qui nous empêche de partir tout de suite ?
La nuit, maman. Si bon marin que je sois, si habitué à toutes les passes qui permettent de s'éloigner de Sarek, je ne suis pas du tout sûr de ne pas échouer sur quelque écueil.
Non, il faut attendre le jour.
Comme c'est long.
Quelques heures de patience, maman, et nous sommes ensemble. Dès l'aube, on s'embarque et nous commençons par suivre le pied de la falaise jusqu'au-dessous des cellules. Là, nous recueillons Stéphane, qui forcément nous attend sur quelques plages, et nous filons tous les quatre, n'est-ce pas, tout va bien ? Vers midi, nous abordons à Pont-l'Abbé, et voilà mon plan.
Véronique débordait de joie et d'admiration.
Elle s'étonnait qu'un enfant pût faire preuve d'un tel sang-froid.
C'est parfait, mon chéri. Et tu as raison en tout. Décidément, la chance tourne de notre côté.
La soirée s'écoula sans incident. Une alerte pourtant, du bruit sous les décombres qui obstruaient le souterrain et un rayon lumineux qui filtra par une fente les obligea à monter la garde jusqu'au moment du départ. Mais leur bonne humeur n'en fut pas altérée.
« mais oui, je suis tranquille. Dès l'instant où je t'ai retrouvé, j'ai senti que c'était pour toujours.
Et d'ailleurs, en dernier ressort, ne nous reste-t-il pas un espoir suprême ? Stéphane t'en a parlé, n'est-ce pas ? Et cela te fait rire, cette confiance dans un sauveur que je n'ai jamais vu ? Eh bien, je te le dis, maman, alors même que je verrai un poignard levé sur moi, je serai certain, tu entends, absolument certain, qu'une main arrêterait le coup.
Hélas, cette main providentielle n'a pas empêché tous les malheurs que je t'ai racontés.
Elle écartera ceux qui menacent ma mère.
Comment ? Cet ami inconnu n'a pas été averti.
Il viendra quand même. Il n'a pas besoin d'être averti pour savoir que le danger est grand. Il viendra. Aussi, maman, promets-le-moi, quoi qu'il arrive, tu garderas confiance.
Je garderai confiance, mon chéri, je te le promets.
Et tu fais bien, puisque c'est moi qui deviens le chef. Et quel chef, hein, maman ? Dès hier soir, je prévoyais que pour mener à bien l'entreprise, et pour que ma mère n'ait ni froid ni faim, au cas où l'on aurait pu s'embarquer cet après-midi, il nous faudrait des vivres et des couvertures. Eh bien, cela va nous servir pour cette nuit, puisque par prudence, nous ne devons pas abandonner notre poste ici et coucher au prieuré. Où as-tu mis le paquet, maman ?
Tous deux mangèrent gaiement et de bon appétit. Puis François installa sa mère, l'enveloppa de vêtements, et ils s'endormirent, pressés l'un contre l'autre, heureux et sans crainte. Quand l'air vif du matin réveilla Véronique, une bande de clarté un peu rose barrait le ciel. François dormait d'un sommeil paisible, d'enfant qui se sent protégé et que n'assaille aucun rêve mauvais. Elle le contempla longuement, indéfiniment, sans se lasser, et le soleil était déjà bien au-dessus de l'horizon qu'elle le regardait encore.
« À l'œuvre, maman !»
dit-il dès qu'il eut ouvert les yeux et qu'il l'eut embrassé.
« Personne du côté du souterrain ? Non ? Alors nous avons tout le temps de nous embarquer. »
Ils emportèrent les couvertures et les provisions et se dirigèrent d'un pas allègre vers la descente de la poterne, à la pointe même de l'île. Au-delà de cette pointe, les roches s'amoncelaient en un chaos formidable où la mer, cependant calme, clapotait avec fracas.
Oh, « pourvu que ta barque y soit encore !»«
Penche-toi un peu, maman !» Tu la vois là-bas, suspendue dans cette infractuosité ? Il nous suffira de manœuvrer la poulie et de la mettre à flot. Ah, tout est bien combiné, mère chérie. Il n'y a rien à craindre. Seulement...
Il s'était interrompu et réfléchissait.
Quoi ? Qu'y a-t-il ?
Oh, rien. Un petit retard.
Mais enfin...
En vrai, pour un chef d'expédition, j'avoue que c'est un peu humiliant. Figure-toi que je n'ai oublié qu'une chose. Les rames, elles sont au prieuré.
Mais c'est terrible.
Pourquoi ? Je cours au prieuré. Dans 10 minutes, je suis de retour.
Toutes les appréhensions de Véronique revenaient.
Et s'il débouche du tunnel pendant ce temps ? Allons, allons, maman. Tu m'as promis d'avoir confiance. Pour déboucher du tunnel, il leur faut 1 heure de travail. Et on les entendrait. Et puis, oh, pas d'explication inutile, maman chérie. À tout à l'heure.
Il s'élança.
François ! François !
Il ne répondit pas.
Ah, oh, je m'étais juré de ne pas le quitter d'une seconde,
pensa-t-elle de nouveau assaillie par des pressentiments. Elle le suivit de loin et s'arrêta sur un monticule situé entre le dolmen aux fées et le calvaire fleuri. De là, elle apercevait l'issue du tunnel
et elle voyait aussi son fils qui dégringolait le long de la pelouse. Il entra d'abord dans le sous-sol du prieuré. Mais sans doute les rames ne s'y trouvaient-elles point, car il sortit presque aussitôt et se dirigea vers la porte principale qu'il ouvrit et disparut.
« Une minute lui suffira amplement, » se dit Véronique. « Les rames doivent être dans le vestibule, en tout cas sûrement au rez-de-chaussée. Mettons 2 minutes au plus. »
Elle compta les secondes, tout en observant l'issue du tunnel. Mais il se passa 3 minutes, 4 minutes, et la porte principale ne se rouvrit pas. Toute la confiance de Véronique s'évanouit. Elle songea que c'était fou de ne pas avoir accompagné son fils et qu'elle n'aurait jamais dû se soumettre à la volonté d'un enfant. Sans s'occuper du tunnel et des menaces qui pourraient surgir de ce côté, elle se mit en marche vers le prieuré. Mais elle avait cette sensation affreuse que l'on éprouve dans certains rêves où les jambes sont comme paralysées et où l'on reste sur place tandis que l'ennemi avance et vous attaque. Et tout à coup, en arrivant au dolmen, elle avisa un spectacle étrange dont la signification ne lui apparut pas sur le champ. Le sol, au pied des chaînes qui encerclaient l'hémicycle vers la droite, était jonché de branches coupées, coupées récemment, et qui montraient encore leurs feuilles fraîches. Elle leva les yeux et demeura stupéfaite, épouvantée. Un seul chêne avait été dépouillé, et sur l'énorme tronc, nu jusqu'à une hauteur de 4 ou 5 mètres, il y avait, piqué par une flèche, une pancarte avec cette inscription « VDH ».
« La 4e croix, la croix marquée à mon nom. »
Elle pensa que, son père étant mort, ses initiales de jeune fille avaient dû être tracées par l'un des ennemis, le principal assurément, et pour la première fois, sous l'influence des événements qui venaient de se produire, songeant à la femme et à l'enfant qui la persécutaient, elle donna, malgré elle, à cet ennemi-là, un visage déterminé. Impression fugitive, hypothèse invraisemblable, dont elle n'eut même pas conscience. Quelque chose de plus terrible la bouleversait. Elle comprenait subitement que les monstres, ceux des landes et des cellules, les complices de la femme et de l'enfant, avaient dû venir puisque la croix a été dressée. Sans doute avaient-ils construit et jeté une passerelle à la place du pont incendié. Ils étaient maîtres du prieuré. Et François se trouvait de nouveau entre leurs mains. Alors elle bondit d'un trait, toutes ses forces ranimées. À son tour, elle courut par la pelouse semée de ruines qui descendait vers la façade.
« François ! François ! François ! »
Elle appelait d'une voix déchirante. Elle annonçait son approche à grands cris. Et ainsi, elle parvint au prieuré. L'un des battants était entrouvert. Elle le poussa et se rua dans le vestibule en criant
« François ! François !»
L'appel résonna de haut en bas, à travers toute la maison, mais resta sans réponse.
« François ! François !»
Elle gravit l'escalier, ouvrit des portes au hasard, courut à la chambre de son fils, à celle de Stéphane, à celle d'Honorine. Personne.
« François ! François ! Tu ne m'entends pas ? Ils te font du mal, peut-être ? Oh, François, je t'en prie !»
Elle revint jusqu'au palier. En face d'elle, c'était le bureau de Monsieur d'Hergemont. Un homme était là, debout, les bras croisés, qui paraissait attendre. C'était bien l'homme qu'elle avait imaginé un instant en pensant à la femme et à l'enfant. C'était le 3e monstre. Elle dit simplement, mais avec quelle horreur inexprimable.
Vorski ? Vorski ?